Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Jair Bolsonaro est un cadeau pour Maduro actuellement, et l'inverse est également vrai. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Bolsonaro, qui a une base, une composante fasciste, ouais, avec de l'autre côté un système ultra-campiste qui finalement a à peu près le même degré de réflexivité.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, intitulée aujourd'hui « Élections truquées, coup d'État et résistance anticoloniale en Bolivie ». À propos donc de ce qui s'est passé en Bolivie à la fin 2019 et début 2020. Et donc pour en parler, nous sommes avec deux personnes liées personnellement à la Bolivie et qui sont auteurs sur ce sujet d'un article dans le journal Le Point, qui est un journal militant montpelliérain, en décembre 2019, qui s'intitulait « Élections truquées, coup d'État, que se passe-t-il en Bolivie ? Une perspective depuis l'autonomie des mouvements sociaux indigènes et populaires ». Et ils avaient également écrit un article en 2017 sur ce même journal Le Point, sur les luttes sociales contre la corruption en Bolivie. Donc bonjour à vous deux. Alors, pour comprendre ce qui se passe en Bolivie, comme vous le faites très bien dans votre article, c'est important de revenir sur l'histoire longue de la Bolivie. Donc, est-ce que vous pourriez un peu présenter le contexte historique qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle en Bolivie ?
Ouais, effectivement, toute situation sociale, elle est interprétable quand on la rattache au flux historique dans lequel elle se crée, quoi. C'est la seule manière on a trouvé qui nous permette de comprendre un peu c'est quoi les enjeux aujourd'hui, quoi. L'axe principal en fait de cette histoire, c'est quand même les processus d'asservissement et les processus de résistance, hein, comme dans toutes les histoires. Et donc, ce qu'on veut d'abord, avant de rentrer dans l'immédiateté, dans l'analyse, etc., de l'immédiateté, de ce qui s'est passé formellement en Bolivie, c'est revenir sur les siècles d'histoire sociale qui nous permettent d'appréhender et d'affiner les analyses qu'on peut faire sur la situation. Les gros trucs, c'est la question de la colonisation et des formes de résistance qu'il y a. Hein. C'est ça, c'est comme quand on dit l'histoire est l'histoire de la lutte des classes. En Bolivie, cette lutte des classes, c'est celle de la colonisation et des luttes anticoloniales. Je trouve que le premier élément qui est marquant dans l'histoire, dans cette histoire bolivienne, c'est le fait de revenir sur la question de la formation sociale Inca, ou de ce qu'on a appelé l'Empire Inca. Je ne sais pas si le terme est vraiment adapté, mais en tout cas de revenir sur cette formation-là. En fait, ce qui se passe, c'est que la formation Inca, c'est une formation de type tributaire, formation sociale de type tributaire, c'est-à-dire qu'elle n'était pas assez stable, les personnes qui étaient soumises aux tribus de l'Inca n'étaient pas assez soumises pour que le modèle tributaire se transforme en modèle féodal. C'est-à-dire que de là à ce qu'une équipe de mecs passe tous les ans et dise « bon bah voilà, je veux tant de lamas, tant de kilos de quinoa, tant d'objets d'artisanat et tant de personnes pour aller faire des tâches de travaux, etc. comme esclaves », à ce que ça passe, il y a un mec qui est référent pour l'Empire Inca de ce territoire-là, de cette population-là et qui en est propriétaire, c'est-à-dire le mode féodal. Il y a des zones de l'Empire Inca qui sont été effectivement soumises, on pourrait dire par analogie, c'est jamais juste de le dire comme ça, mais à un mode féodal. Mais l'essentiel des territoires, donc du Tahuantinsuyu, du territoire Inca, n'était elle-même pas soumise à un mode féodal. C'était juste des luttes permanentes qu'il y avait entre d'un côté l'Empire Inca et de l'autre côté des communautés que l'histoire connaît maintenant comme puruma. Ça veut dire comme sauvage, comme indompté. C'était un terme négatif, mais aujourd'hui en quechua aymara, par exemple, une terre puruma, c'est une terre qui n'a pas été cultivée, qui est pas encore cultivée, ou qui est dans un cycle de rotation des cultures, etc. C'est-à-dire au moment où elle est vierge, où elle est sauvage, on va dire
indomite.
Comme ça. Indomite. Indomite, ouais.
Indomptable.
Indompté, ouais, voilà. Indompté. Donc, cette histoire sociale des Puruma, même si elle n'a pas une historiographie qui est très, très, très étendue, elle est vachement importante dans l'histoire sociale bolivienne, parce qu'elle est quelque part la figure de la résistance à l'Empire Inca lui-même. Et surtout, son existence, elle met en lumière un fait particulier qui est celui d'une résistance communautaire à une emprise impériale des Incas. Même si ensuite, par la suite, il va y avoir une réadaptation de ce qui est dans la tête des uns et des autres, et notamment des Aymara Quechua, face à ce qu'a été le colonialisme, d'une réinterprétation, on va dire, de ce qu'a été l'Empire Inca, cette réinterprétation-là, elle est toujours marquée dans ça. C'est-à-dire que même si y a toujours l'histoire du mythe du Puruma en toile de fond, qui est toujours rappelé, c'est quand même la structure communautaire qui existe en deçà de l'emprise Inca. Et après, bah forcément, quand la colonisation espagnole va arriver, on va revoir cette histoire s'articuler. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a une partie de l'Empire Inca qui prend parti, qui s'allie avec le colonisateur espagnol. Et il y a une seconde partie de l'Empire Inca je parle de l'Empire, c'est-à-dire des nobles, quoi, de la noblesse Inca, quoi, qui va s'allier avec les processus de résistance qui eux-mêmes émergeaient des territoires qui étaient à l'époque Inca considérés comme Puruma. C'est-à-dire que à la fois les Puruma ont été les personnes qui ont tenu tête à l'Empire Inca, à la fois c'est ces personnes-là, ces territoires-là, les territoires rebelles, les territoires insoumis, qui vont s'activer et activer une résistance contre l'envahisseur espagnol. Par contre, cette fois-ci, il y a une partie de la noblesse Inca qui va s'allier avec ces territoires-là contre l'Empire espagnol, contre la colonie. Donc là, on connaît la suite. La résistance Aymara Quechua va être vaincue militairement. Et donc, progressivement, le colonialisme va s'imposer, initialement sous les mêmes formes que l'Empire Inca, c'est-à-dire que au début de la colonisation, il y a un mode tributaire. Les Espagnols n'arrivent pas à contrôler les territoires de la même manière qu'ils contrôlaient les territoires espagnols, c'est-à-dire que les gens soient rendus au statut de serf, qu'il y ait une domination stabilisée, qu'il y ait un contrôle féodal des territoires. C'est au début un contrôle qui reste tout à fait tributaire, c'est-à-dire qu'il y a telle ou telle personne qui est en charge de récolter l'impôt et le tribut sur des zones qui ne sont soumises que militairement et qui ne donnent de matières premières, de personnes à envoyer dans des travaux forcés, de ressources, d'artisanat, de temps, de tout ce qu'on veut, qu'à partir du moment où il y a une menace et une pression militaire réelle de l'Empire espagnol qui peut soutirer à échelle régulière ces trucs-là. Mais bon, bah quand ils s'en vont, quand ils doivent partir dans une autre zone pour réprimer une révolte, pour soumettre un territoire, ils n'ont pas l'assurance d'une stabilité de revenus, en fait. Il y aurait aussi, sur cette période, beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a pas mal de contestations autour de ça, archéologiques et historiques. Donc d'une part, on a bien sûr la négation de l'existence des Puruma et de l'histoire sociale complexe andine, puisque le colonisateur va considérer que l'Empire Inca est un empire à son image. Et donc, de toute façon, il n'y a pas d'autre image que celle de l'Empire dans l'histoire sociale humaine. Et que donc, toute cette histoire des résistances et des modes de production communautaire qui résistent à un empire, c'est une histoire qu'on va avoir complètement disparaître et qui va réapparaître au fur et à mesure, depuis la clandestinité des courants contestataires andins jusqu'à les formes élaborées aujourd'hui d'histoire orale, c'est-à-dire d'une histoire qui redonne la parole à une oralité et à une mémoire populaire face à l'histoire factuelle des dominants qui ont écrit des comptes rendus de la vérité. Donc déjà, ça, c'est une première polémique et qui est la polémique générale, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, il y a sur la question de l'écriture et du calcul. Sur la question de l'écriture et du calcul, officiellement, aujourd'hui, on considère que les populations andines, Aymara Quechua, étaient capables de faire des calculs via des nœuds et des manières de tisser les choses. Ça, logiquement, on l'a appris même à l'école primaire en France. Ça fait partie de la culture dominante, ça, on le reconnaît. Par contre, on reconnaît uniformément qu'il n'y a pas d'écriture endo-amazonienne. Et pourtant, il y a une polémique qui est de dire que si, de la même manière qu'il y a des modes qui sont des modes de calcul avec des nœuds et avec des tissus, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des personnes qui ont toujours affirmé, mais dont leur parole sort de la clandestinité, qu'il y a des formes d'écriture, qu'il y a un mode d'écriture qui se rapprocherait du mode d'écriture chinois, mais qui a comme signes principaux la manière de faire des nœuds dans les tissus, manière de faire des nœuds qui se surajoutent à la symbolique du tissu lui-même. Donc tout ça pour dire que l'archéologie précolombienne, elle est soumise à énormément de champs de tension et de polémiques. Et ce qui a marqué les centaines d'années de cette polémique-là, puisque les polémiques, elles n'existent que à partir du moment où il y a une parole contestataire à cette histoire dominante qui arrive sur le devant de la scène, au départ de manière tout à fait clandestine, et puis depuis une trentaine d'années quand même, avec l'apparition de l'atelier d'histoire orale irlandine, avec l'apparition de plus en plus d'académiciens issus du monde Quechua Aymara, et aussi des groupes militants qui, à partir des années 70, quand même, ont fait un travail de fond d'un point de vue historiographique, philosophique, etc., au niveau des sciences sociales. On voit apparaître quand même toute cette manière de penser à la fois l'histoire bolivienne qui viennent rompre avec le fait de dire qu'il n'y a qu'une seule histoire qui sont celles des empires, il n'y a qu'une seule histoire qui est celle de la domination, que tout ce qui est l'organisation sociale communale, elle a un poids dans l'histoire, etc. Et que le fait de la nier comme soit un archaïsme, soit un mythe, eh ben, ça permet pas de saisir un peu l'histoire telle qu'elle a existé. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un petit résumé historique depuis la colonisation, tel qu'on l'a fait là depuis avant la colonisation, en mettant en avant ces éléments d'historiographie clandestins.
Progressivement, en fait, ce qui va se passer, c'est que les domaines, les territoires qui étaient soumis à la colonie sous une forme qui était initialement tributaire, cette domination, cette exploitation va se stabiliser au fur et à mesure de la conquête espagnole. Donc, à cette époque, il y avait quand même une figure, je pense, dont il faut parler, qui est une figure quelque part transhistorique dans l'histoire sociale bolivienne, c'est le caudillo. En fait, le caudillo, c'est un terme qui change au fur et à mesure du temps, qui est toujours négatif. Il décrit, du moins la première fois où il est apparu, il décrit en fait le rôle d'une personne au sein du mode tributaire, au sein de la communauté andine, puis ensuite au sein du monde féodal, celui qui fait le relais avec le féodalisme. Ça désigne la personne, en somme, dans la communauté andine, qui fait articulation avec le pouvoir. Et ça, c'est dans ce monde, on va dire, tributaire, puis féodal andin. Et puis, au fur et à mesure du temps, même aujourd'hui, on utilise le terme de caudillo pour parler, par exemple, de certaines formes de corruption dans les tissus sociaux, pour parler de figures de pouvoir locales, autour d'entrepreneurs locaux ou d'influences politiques, etc. Ce qui se passe à cette époque-là, c'est que, en somme, le mode de production tributaire se stabilise. Et il y a au fur et à mesure des personnes qui deviennent vraiment les nobles de tel ou tel territoire. Alors ça se fait à un rythme différent selon les régions. Et au fur et à mesure d'ailleurs de l'avancée de la domination, il y a aussi une histoire géographique qui se fait. Parce que les gens essaient de fuir des zones qui sont contrôlées par la colonie, qui sont généralement les terres les plus intéressantes d'un point de vue agronomique, les endroits où il y a des ressources en minerais, pour aller vers des endroits où malheureusement la vie est un peu plus difficile, ou des endroits que la colonie n'intéresse pas, quoi. Et c'est quelque chose qui va vraiment structurer la géographie sociale du pays, parce que, bah, entre guillemets, les communautés qui restent encore aujourd'hui organisées en communautés, qui sont pas en syndicat, enfin, on verra ça dans l'histoire plus tard, elles sont justement dans ces territoires qui étaient des territoires de fuite, dans les montagnes, ou dans la jungle. Ce qui se passe, alors, dans cette situation, c'est que quand même le passage au féodalisme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit stabilisé sur un territoire, qu'il le domine entièrement, que les gens deviennent des sujets de cette personne, ce qui est en jeu, en réalité, c'est une intensification de la domination, de l'exploitation, et ça passe par la suppression des autonomies communales, ça passe par des réorganisations du territoire et du travail. Qui sont encore plus au désavantage des populations. Et ce phénomène n'est pas sans engendrer de révolte. C'est là où, pendant cette période vraiment où, après la conquête, la colonie va essayer de se stabiliser et d'exploiter de plus en plus et de dominer de plus en plus, c'est le moment où il va y avoir la grande révolte qui est un peu connu aussi en France, les révoltes du monde andin de Tupac Amaru dans les Andes et de Tupac Atari en Bolivie. Alors voilà, je pense que c'est intéressant de dire ça, c'est que bon bah visiblement il n'y a pas que un Tupac Atari ou un Tupac Amaru, mais que en gros toutes les personnes qui ouvrent un peu leur gueule s'autoproclament Tupac Atari quoi. Ou Tupac Amaru, ou Thomas Katari, ou des noms qui sont, voilà. Alors Tupac Katari, ça veut dire serpent lumineux, je crois, ou un truc. Bon, à l'époque, ça devait vachement en jeter. Des femmes aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ces révoltes, elles étaient accompagnées, enfin, c'était plutôt un couple, quoi. Là, en l'occurrence, bah, Bartolina Sissa, qui était l'épouse de Tupac Katari, qui est une figure aussi, quoi, de cette période de révolte. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que il y a à ce moment-là un ensemble de communautés andines qui se mettent en mouvement un peu partout dans les Andes, qui se développent depuis, dit-on, alors il y a plusieurs pistes, quoi, le lac Titicaca ou d'autres, enfin voilà, y a un foyer de révolte qui explose face à ces injustices et d'imposition, quoi, de ce qu'on pourrait appeler par analogie le féodalisme. C'est toujours très hasardeux, hein, de faire des analogies et surtout de croire à cette vision transition esclavagisme antique, féodalisme, capitalisme. Dans la réalité, c'est beaucoup plus croisé, et puis surtout c'est beaucoup plus différent quand on est dans une autre histoire, dans un autre territoire comme celui de la Bolivie, quoi. Voilà. Donc il y a cette grande révolte qui explose, et les rapidement quand même tout le territoire andin s'embrase, toutes les puissances coloniales qui se faisaient la guerre à ce moment-là pour des questions de rivalité, de partage, quoi, de l'Amérique latine, s'allient pour réprimer cette révolte. Et donc, la répression de cette révolte, elle est vraiment sanglante, hein. Je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, il y a énormément de morts. Et puis ensuite, des répressions qui durent pendant des années et des années. Voilà, elle a aussi, comme elle dure longtemps, un effet sur l'avancée, de la stabilisation, du mode d'exploitation, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette révolte de Tupac Atari, elle est très largement ensuite, pendant les siècles qui suivent, invisibilisée. Et elle est invisibilisée avec quelque chose qui va se développer plus tard, voilà, je dirais quelques décennies plus tard, parce que la révolte de Tupac Atari, c'est 1781, c'est juste avant la Révolution française. C'est la période aussi où il y a la Révolution haïtienne, où il y a les grandes. Donc c'est cette période-là où il y a la grande révolte de Tupac Atari. C'est intéressant parce qu'il y a quand même déjà à l'époque des textes. Donc, où on peut un peu voir quels étaient bah voilà, les projets politiques des personnes voilà, qui étaient ceux qui ont à un moment donné ou à un autre laissé des témoignages quoi, sur les objectifs qu'il y avait. Et donc, bah, quand même, l'objectif, quoi, très clairement, c'était d'en finir avec la couronne espagnole et tout, de retrouver un territoire, une autodétermination sociale. Mais ce qui est quand même marquant, c'est que à cette époque déjà, où on a envie de dire, enfin voilà, à cette époque, la question de la revendication d'un certain mode de fonctionnement économique et politique basé sur la communauté andine, sur l'Aïlou, c'est déjà assez fort, quoi. C'est-à-dire cette idée de dire qu'il faut mettre en communauté et gérer les choses depuis les communalités. Ça, c'est quand même assez fort. C'est à peu près les mêmes choses qu'on retrouve dans les textes de Jacques Roux, juste un peu plus tard, où Jacques Roux, le représentant un peu de la paysannerie dans la Révolution française, où à la fois il y a une critique de la royauté, puis ensuite dans le cas de Jacques Roux, du féodalisme, puis dans le cas de Jacques Roux, de ce qu'a été le pouvoir centralisé. Et de l'autre côté, une vision très communaliste de l'organisation de l'économie avec la défense des terres communales, avec la lutte contre les spéculateurs, etc., etc. Donc c'est pas la même chose qu'on retrouve chez Tupac Katari, mais je dirais c'est quand même analogue, et c'est aussi analogue parce que c'est à peu près à la même époque. Donc pour situer un peu politiquement, quels étaient les objectifs quoi de cette révolte. Ce qui se passe après la révolte, c'est avant tout la continuation du flux de la domination, avec quelque chose qu'il faut vraiment noter qui arrive au milieu du 19e siècle, qui est le processus d'indépendance et de création de république. Alors, il faut être assez clair, quoi. Le processus d'indépendance, c'est le processus d'indépendance des colons vis-à-vis de leur métropole. C'est pas un processus d'indépendance tel qu'on peut les connaître, après la Seconde Guerre mondiale, pendant la période qu'on a appelée décolonisation. C'est des indépendances où les protagonistes de l'indépendance sont les colons. Et fait assez particulier, c'est une république. Où bien évidemment tout le monde n'a pas le droit de vote. Et c'est une république qui aussi encadre un mode de production qui reste ou qui devient à peine féodal avant de transiter, un mode de production féodal qui s'articule quoi au capitalisme. Parce que, mais les rapports de production, c'est-à-dire que les gens dans les mines, dans les trucs, tous sont serfs. Et donc c'est un peu étonnant de dire ça, mais c'est une république formelle, mais c'est une république qui ne reconnaît pas le droit de vote à tout le monde, et c'est surtout une république qui encadre un mode de production féodal. Et en fait, au fur et à mesure de cette stabilisation du féodalisme, c'est là où le domaine seigneurial progressivement va être utilisé comme quelque chose de ressource à partir duquel qu'on peut exploiter, qui est plus uniquement doit rendre tribut au roi mais qui s'articule progressivement au marché.
Oui, et cette articulation au marché de ce mode de domination et d'exploitation féodale, elle va se faire beaucoup par le biais de l'exportation de minerais et de matières premières agricoles. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on assiste dans le cas de l'Amérique latine à un développement inégal et combiné, inégal dans le sens où globalement il va y avoir une domination de plus en plus importante du capitalisme britannique sur les économies de l'Amérique latine, et combiné dans le sens où on a la combinaison d'un mode de production, de domination, d'exploitation de type largement féodal tout au long du 19e siècle en Amérique latine, qui se combine avec un mode de production et capitaliste qui est celui de l'Angleterre et puis plus tard des États-Unis, ce qui explique pas mal de débats dans les années 60-70 autour de l'Amérique latine, certains défendant comme Gunther Frank que l'Amérique latine a toujours été capitaliste, d'autres défendant au contraire une position plus subtile, il s'agissait essentiellement d'un mode de production féodal, comme tu dis, mais qui s'articule de plus en plus au fur et à mesure du temps avec le marché capitaliste mondial, et c'est ce marché capitaliste mondial qui progressivement, mais très lentement, tout au long du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, va transformer la formation sociale, notamment en Bolivie, et y faire naître des rapports de production proprement capitalistes, d'abord dans les villes et les industries d'extraction, et puis bien plus tard seulement, plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans l'agriculture.
Le capitalisme, il arrive, comme tu disais, il y avait les villes, tu vois, qui étaient, enfin, certains ports, certains, les zones, les circuits d'exportation, les circuits d'extractivisme, etc., sont les circuits du capitalisme.
sont le lieu à partir duquel les rapports de production capitaliste se sont développés jusqu'à devenir majoritaires, etc. Mais par exemple, même dans les villes, dans les contextes urbains, les villes comme Potosi, par exemple, les villes de mines, etc., tout ça, c'était du féodalisme. Le rapport à l'argent, dans le salariat, il arrive quand même assez tardivement, hein. En 1952, les gens sont encore formellement des serfs. Alors, ils peuvent avoir accès à l'argent, par d'autres aussi, mais ils sont rattachés à un territoire et à un maître, quoi. Donc, c'est quand même à partir de 1952, assez tardivement, où formellement ça disparaît. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que à partir du féodalisme, etc., qui est imposé, disons, après la défaite de Tupac Atari et de Tupac Amaru, avec l'élaboration des indépendances, etc., pendant cette période-là, chaque partie du territoire est attribuée à une personne au sens féodal du terme, quoi. Et même les mines, même les trucs comme ça, même les conseils, tout, et ils sont pour être, ils ont eu, c'est des familles qui sont à la fois dans l'armée, dans l'église, dans l'État. Et c'est comme ça qu'existe le pouvoir, quoi. On est encore vraiment sur des rapports très très violents, quoi, à la fois entre eux et à la fois contre la population, quoi. Et si tu veux, au fur et à mesure que cette domination-là, elle se stabilise, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un développement de plus en plus important de formes de capitalisme agraire. Mais les formes de capitalisme agraire, c'est-à-dire l'utilisation de l'agriculture pour des échanges marchands dans lequel le rapport de production, c'est un rapport de production de servage. C'est-à-dire que le produit de l'agriculture est vendu essentiellement à la mine pour nourrir les serfs qui travaillent dans la mine, et le propriétaire va être payé en argent. Et donc cette transition au capitalisme agraire, elle s'accompagne à l'intérieur des domaines seigneuriaux, encore une fois, réduction de l'existence communale. Plus, en gros, la domination se fait sur les territoires, plus il y a une emprise qui permet de passer à ce qu'on appelle le féodalisme. Une fois que le féodalisme est institué, entre guillemets, les rapports de production marchands deviennent de plus en plus faciles. Et l'utilisation de rapports de production qui sont des rapports de production parfois même esclavagistes encore à l'époque, hein, en Bolivie. C'est-à-dire que, en plus, pour pas rajouter de la complicité, pendant tout ce temps-là, il y a des serfs, des esclaves, il y a des différents degrés de serfs avec, voilà, tout le racisme qu'il y a derrière cette idéologie, et cette pratique sociale, quoi. Il y a cette évolution-là qui se met en place. Il y a des processus à chaque fois de résistance. Que ce soit de Tupac Atari pendant la période qu'on peut dire formellement le passage au féodalisme, de résistance qui perd, etc., ou celle d'après, celle qui correspond un peu à ce que Marx décrit dans Le Capital avec, encore une fois, des suppressions de communaux, on est toujours dans l'éternelle accumulation primitive en réalité, parce que la domination avance sur la société. Et donc, en 1900-1901, il y a cette grande révolte où justement il y a des libéraux et des réactionnaires qui sont articulés sur différentes options politiques, mais aussi sur différents secteurs de l'économie, qui sont en rivalité, qui sont plus simplement féodales, mais qui deviennent féodales et économiques, c'est-à-dire une guerre, quoi, entre les classes dominantes boliviennes. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une révolte populaire de Zaratevilca, de tous les de, qui en fait prend racine dans les communautés rurales andines, mais aussi dans les mines, mais aussi dans les villes, etc., avec le début du prolétariat urbain, voilà, qui essaie de résister contre cette accélération, en fait, de la domination que représente l'arrivée du capitalisme. Parce que l'arrivée du capitalisme, en réalité, ça permet la rationalisation de l'exploitation féodale, son calcul marchand, et il se pose pas du tout la question de faire en sorte que les gens deviennent salariés. C'était pas du tout l'enjeu, par exemple, de la domination à cette époque-là, quoi. Il y a ces luttes-là, elles sont réprimées, c'est-à-dire que les puissances se réallient et réprime les personnes, enfin voilà, la lutte andine, quoi. Après, ce qui s'est passé, c'est justement en 1952, c'est là on arrive un peu, la prochaine période un peu forte, c'est en 1952, c'est la période de la Révolution en fait. Toute une agitation qui se met en place dans les campagnes, autour de formes d'organisation communale qui essaient de s'activer, etc. Donc après cette défaite qu'ils avaient vécue au début du XXe siècle. Et dans les villes, ils commencent vraiment à avoir aussi un prolétariat, organisé aussi toujours là à l'époque quand même avec énormément une forme d'artisanat.
1925, oui.
Ouais, voilà,
Qui a
les années
commencé
20, etc. Donc c'est qu'il commence à y avoir un prolétariat de type artisanal qui se développe dans les villes et petits marchands, etc. et qui est anarcho-syndicaliste souvent.
Voilà.
Il y a ça qui arrive dans les villes. Il y a aussi des communistes, etc., qui sont plus présents dans un peu le fonctionnariat, on va dire les choses comme ça. Des trotskistes qui commencent à exister dans les mines. Puis des idées type justement des nationaux révolutionnaires dans l'armée, plus dans la bourgeoisie progressiste, etc., quoi.
Un petit peu comme dans les pays arabes à la même époque, avec le nassérisme et tout ça, c'est-à-dire une espèce de bourgeoisie qui prône un développement du capitalisme national sur des bases relativement autonomes de l'impérialisme et du marché mondial, avec également une rhétorique progressiste, éventuellement un petit peu sur les droits des...
Alors progressiste, je sais pas si le mot est bien choisi parce qu'ils étaient quand même pro-allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est vraiment pas Charlie, quoi.
Mais les nazis étaient loin, donc ils pouvaient toujours se proclamer anti-impérialistes, tout en parce que l'impérialisme qui, eux, les concernait directement, étaient les ennemis de l'Allemagne nazie, notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc on retrouve d'ailleurs le même phénomène dans le monde arabe, hein. Certains nationalistes, hein, pas tous, mais certains nationalistes ont soutenu voilà, les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale parce que la défaite de l'Angleterre. Aurait enfin, évidemment les aurait arrangés énormément puisque c'était la puissance tutélaire à partir de la fin de la Première Guerre mondiale sur le Moyen-Orient.
Et là, ben là en Bolivie, c'est le gros moment aussi. Là, c'est un moment assez fort parce que en gros, ce qui se passe, c'est quand même très comparable à la Révolution française parce que l'enjeu, c'est la réforme agraire et la fin du servage. Ce que demandent les gens. Donc ça se manifeste par le fait qu'ils tuent
Les patrons.
les patrons dans toutes les campagnes. Donc il y a un truc de fait qui se passe. Il y a des phénomènes de blocage des villes, etc., où les gens descendent sur les villes. Dans les villes, il y a toute cette agitation ouvrière ou prolétaire ou artisane ou mélangée voilà, autour de ce truc-là qui est très très vive. Et que c'est la première fois aussi dans l'histoire sociale bolivienne où c'est aussi vif, parce que c'est la première fois où il y a des villes en dehors du processus simplement minier, on va dire, quoi. Dans les mines aussi, il y a énormément de choses qui sont mises en place avec bah, la répression du syndicalisme, etc. Et donc, il y a quand même énormément d'agitation sociale et puis de menaces sérieuses, on va dire, pour le pouvoir, quoi. Et effectivement, c'est là où le mouvement nationaliste révolutionnaire, donc celui dont on parlait là, fait un coup d'État avec l'armée en se prononçant, soi-disant, pour la révolution. Et rentrent dans le jeu avec eux les communistes et les trotskistes. Et ceux qui sont exclus du jeu, on va dire, c'est l'option du communalisme et, disons, l'anarcho-syndicalisme. Ou cette vision-là, qui était plutôt, disons, celui du prolétariat, urbain, quoi. Pas forcément minier. Et donc, ça se passe très très mal, en fait, hein, puisque, en gros, tout le monde est réprimé. Ils créent, des syndicats paysans maîtrisés depuis l'État dans une vision fasciste, sous un nom très clair qui s'appelle le pacte militaro-paysan, pour mettre voilà, au pas, quoi, l'organisation communale, toujours sous le modèle du caudillisme. Qui était bah voilà, de structurer, disons, la société ou la communauté andine depuis un appareil maîtrisé par l'État, quoi. Jusque dans l'intimité des relations sociales, jusque dans l'intimité de l'État. Et pareil pour le syndicalisme ouvrier, qui est mis depuis un syndicat d'État. Et ensuite, donc, les communistes et les trotskistes sont réprimés. On se rend compte au fur et à mesure du temps que le MNR avait fait des pactes avec les États-Unis dans le cadre du plan Condor. C'est-à-dire le truc de, tu vois, qu'ils étaient en réalité, ils avaient fait alliance avec les communistes et les trotskistes, mais ils étaient quand même en alliance aussi avec le plan Condor, etc. Donc ils étaient dans des pactes politiques en vue d'une pacification, enfin tu vois, d'une stratégie de pacification entre guillemets quoi, des États-Unis. Ensuite, s'en déroule une radicalisation interne, quoi. C'est-à-dire que des gens du MNR font coup d'État sur des gens du MNR. Puis les gens du MNR qui font des coups d'État sur les gens du MNR deviennent des trucs de plus en plus fascistes qui s'appellent la phalange socialiste bolivienne. On s'en souvient pour X années de coups d'État, de dictature. Dans les années 70, un retour de radicalité. À la fois, il y a des courants syndicaux qui s'articulent contre le pacte militaro-paysan au niveau syndical. Je ne sais pas s'il faut dire des courants syndicaux puisque c'est pas vrai. Justement, ils veulent rompre avec les formes de syndicalisme imposé par l'État, quoi. Et c'est pas vraiment le syndicat, c'est pas leur référent historique non plus. Mais bon, on va dire, voilà, c'est des mouvements qui tentent de rompre, quoi, avec cette forme de domestication de la paysannerie. Et de l'autre côté, dans les villes aussi, la COB elle-même devient interdite, c'est-à-dire que la COB qui était une structure d'État se radicalise, devient interdite, donc il y a une COB clandestine, etc.
COB, Centrale Ouvrière Bolivienne, pour préciser.
Il y a énormément de choses qui se jouent. Et en 79, il y a un grand processus de blocage de l'économie.
Ils sont arrêtés d'envoyer la bouffe vers la ville.
Il y a eu des blocages de routes vraiment énormes avec des pierres, des kilomètres de pierres partout, etc. Des villes assiégées, des blocages partout. Et donc, en gros, là, à partir de ce moment-là, il y a vraiment un truc qui fait que la dictature, elle transite, quoi, vers quelque chose de, entre guillemets, démocratique, quoi. Et là, c'est les années 80, et la démocratie, c'est vraiment la période du néolibéralisme. Plus c'est la gauche, quoi, qui vient imposer, tu vois, des politiques néolibérales, quoi. Et c'est en ça que se transforme finalement la question de la démocratie telle qu'elle arrive dans les années 80, quoi. Je sais pas, ouais. Toi tu peux peut-être
expliquer. Et les années dorées de l'exportation de la cocaïne aussi, dedans et dehors, quoi, de la Bolivie.
Faudrait revenir sur cette histoire de 1952 parce que c'est un peu la même chose qui se passe dans les années 80 aussi, quoi. C'est souvent ce mécanisme-là. Il y a un processus de révolte populaire. Et ce processus de révolte populaire, il est dans le cas du coup d'État qui se met en défense de la révolution et qui finalement la met en échec, quoi. C'est toujours cette chose-là, quoi, qui se. Dans les années 80, voilà, il y a eu cette énorme lutte contre la dictature, etc.
En fait, il s'approprie de la lutte pour se mettre en avant à la tête de la lutte. Et il fait penser que eux, ils sont la révolution.
En fait, c'est un peu similaire à ce qu'on a vécu, nous, en France, en 68, avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Je fais l'analogie parce que comme ça permet un peu de comprendre ce truc-là, quoi. C'est-à-dire, il y avait un espèce d'espoir, de truc, etc., d'une lutte qui allait mener à quelque chose, et ça a été Bernard Tapie, quoi. C'est-à-dire dans les années 60, au cours des années 80, le retour de la gauche au pouvoir, c'était censé être quelque chose de plus, quoi, que la fin de la dictature, quoi. Et en fait, le jeu des partis, etc., dans les années 80-90, en réalité, c'est cette même droite qui était dictatoriale qui est revenue au pouvoir par les urnes. Parce que les élections, c'est un haut lieu de clientélisme, que c'est un haut lieu de corruption, que les élections, c'est pas un truc... c'est pas comme en Suisse, quoi. Et donc, il y a cette dimension-là qui continue, quoi, dans les années 90, avec de plus en plus de réformes libérales et une démocratie représentative de plus en plus contestée, on va dire, quoi. Il y a vraiment, encore une fois, quelque chose qui s'articule autour d'un rejet de la démocratie, tu vois, telle que nous là, on l'avait un peu vécu avec les gilets jaunes, quoi, c'est-à-dire une critique de la démocratie représentative, des trucs comme ça, et une critique sociale très forte, quoi, sur tous les aspects, parce que ah oui, il y a eu une réforme agraire en 52. Il y a eu une réforme agraire en 52, par contre. C'est-à-dire en 52, les gens sont quand même sortis du servage
Ouais.
et ont eu accès à la terre. Mais donc ça a aussi reconditionné un peu l'histoire sociale. Mais bon, voilà, il y a eu tout de suite tout un tas de problèmes vis-à-vis de la réforme agraire, tout un tas de problèmes vis-à-vis du minifundio, du fractionnement, tout un tas de problèmes vis-à-vis des intermédiaires, etc. Vis-à-vis de... Donc il y a énormément de revendications encore des secteurs qui vivent dans la ruralité.
Oui, c'est une histoire du coup assez riche en termes de lutte. Et justement, ce sont des luttes qui vont porter Evo Morales au pouvoir au début des années 2000. Et donc ça, on va en parler dans une deuxième partie, dans la deuxième partie de cette émission, qui sera consacrée donc à l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales portée par un certain nombre de luttes, un bilan critique de son mandat. Et puis, évidemment, à ce qui se passe aujourd'hui en Bolivie, depuis, les dernières élections, présidentielles.
Vieron llegar mis hermanos emplumados, serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre, se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, libre a mi gente.